Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes et je vais commencer en priant. Prions. Merci Seigneur pour ce moment ensemble. Merci pour ta parole qui nous parle, qui est pertinente pour notre foi, qui va nous aider à grandir ce matin dans la foi. Parle-nous, ouvre nos cœurs pour que nous voyions toute ta bonté, toute ta gloire ce matin et équipe-nous pour la semaine à venir. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Qui n'aime pas les histoires de libération? Alors, au début du XVe siècle, Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans, mène victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, levant le siège d'Orléans, conduisant le dauphin Charles. Le futur Charles VII de France, dit Charles le Victorieux, au sacre, à la cathédrale de Reims, et contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans. Le 26 août 1944, Charles de Gaulle descend les Champs-Élysées en vainqueur, en libérateur de Paris. C'est un grand moment dans l'histoire française, un grand moment dans l'histoire, dans la vie de Charles de Gaulle lui-même. Il a été passé auparavant par des moments sombres, des moments de doute, de conflit, mais son heure de gloire était venue. Il a saisi la grandeur de son destin. Et ce matin, nous allons parler d'un libérateur, d'un grand libérateur. Nous allons revenir aux planches du théâtre du pays de l'Égypte et nous allons continuer notre lecture, notre découverte de l'histoire d'une libération totale, d'une émancipation fulgurante. Mais comme nous avons vu il y a deux semaines, l'intérêt pour nous, des chrétiens du XXIe siècle, n'est pas d'abord intellectuel ou historique, mais spirituel. Cette histoire de l'Exode est rien de moins que le récit de l'Évangile. C'est la mise en scène de l'Évangile sur les planches du théâtre de l'Égypte. Cette histoire d'une libération préfigure celle dont nous sommes bénéficiaires en Jésus-Christ. Elle raconte des siècles à l'avance, de manière imagée, de manière historique, de manière politique, toute la portée de ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ est en train de faire pour chacun de nous qui se confie en lui. Alors, il y a deux semaines, nous avons été témoins d'une période à la fois féconde et sombre de l'histoire des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était une période féconde parce que Dieu était en train d'accomplir ses promesses qu'il avait faites à Abraham, celle de faire de sa descendance un grand peuple. En effet, Dieu les bénissait et devenait de plus en plus nombreux. Nous avons vu comment Dieu était en train de donner naissance, de créer un nouveau peuple, une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité se trouvait au sein de l'ancienne humanité, un peu comme l'Église dans le monde. Cette nouvelle humanité se trouvait parmi les Égyptiens, qui se sentaient de plus en plus menacés par la présence de ce peuple béni. Et comme le chapitre 1 nous l'a montré, le pharaon, le roi, avait mis en place un système d'apartheid, d'esclavage, et enfin, comme on l'a vu à la fin, de génocide. Les actions du pharaon faisaient mal, très mal. C'était dur pour les Israélites. Mais les textes nous montraient qu'il y en avait un qui était plus fort que lui, un autre souverain, nettement plus puissant, qui était à l'œuvre. Sa politique vicieuse, haineuse, maléfique, de subjugation, d'extermination, rencontrait à chaque étape le bras puissant du Dieu d'Israël. Alors, ce matin, nous allons commencer avec l'histoire d'un petit garçon, un enfant avec un grand destin, nous est né. Ensuite, nous allons retrouver ce garçon à l'âge adulte et nous verrons de quoi il est fait ou de quoi il n'est pas fait, en l'occurrence, car il se révèle un piètre libérateur. Mais heureusement, l'histoire ne se termine pas là, sur cette note d'échec. Il y a de l'espoir, car ce Moïse nous montre qu'il y a un libérateur qui fait le poids. Alors d'abord, cet enfant, avec un grand destin. Voilà, l'histoire se focalise sur un bébé. C'est une histoire pleine d'ironie, car, pour reprendre le langage des psaumes, Dieu se moque de l'arrogance des hommes, et d'un homme en particulier, le Pharaon. Donc versets 1 et 2. « Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une lévite. » Voilà, Moïse est doublement lévite, bien capable d'être un prêtre plus tard. Verset 2. « Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » Elle l'a caché sans doute à la maison pendant qu'il était petit. Encore une fois, une femme de foi tient tête au dictateur génocidaire. Elle ne s'est pas résignée au mal, elle a lutté contre. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, les deux parents de Moïse sont recommandés pour la foi exemplaire. Alors, le père de Moïse n'est pas mentionné dans ce texte, le texte de l'Exode. Il est sans doute un esclave enchaîné loin de sa famille. On peut se demander si Moïse n'est pas un tant soit peu gonflé. Au verset 2, Moïse, l'auteur du récit, dit « Elle vit qu'il était beau ». Moïse était un bel enfant, un beau garçon. Les commentateurs commentent largement cette petite phrase. Certains pensent que c'est un petit rappel de plus du récit de la création, où Dieu vit tout ce qu'il avait créé et il a dit « C'est bon, c'est très bon ». Dieu serait en train de voir le début de sa nouvelle création, ce bébé, avec un destin extraordinaire. Il serait en train de dire par la bouche de sa mère, « Ah voilà, je vois, il est bon. » En tout cas, le texte continue avec un autre parallèle qui nous rappelle le livre de la Genèse. Verset 3. « Lorsqu'elle ne peut plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. » La mère de Moïse, qui s'appelle Jochebed, contourne les règles du Pharaon. Encore une fois, les tentatives génocidaires du Pharaon se trouvent contrecarrées par des femmes. Elle le met dans un petit bateau, une caisse de jonc. Mais pour être plus précis, le mot que Moïse utilise est celui de l'arche. Elle le met dans une arche. Ce petit mot « arche » est utilisé 2 fois dans l'Ancien Testament, une fois pour l'arche de Noé et ensuite pour l'arche de Moïse. C'est un petit clin d'œil littéraire. Dieu est à l'œuvre. Tout comme il a été à l'œuvre en sauvant Noé et sa famille. Ce bébé est spécial. Il aura très clairement un destin extraordinaire. Il a été sauvé en vue d'un nouveau départ. Tout comme Noé a été un nouveau départ pour l'humanité. Dieu le sauve de l'ensevelissement dans les eaux, d'une mort aqueuse. Et en cela, Moïse trace la route que son peuple va prendre après lui, quand il sera délivré par Dieu, qui va le faire passer au milieu de la mer Rouge. L'événement fait penser aussi à Jésus, sauvé aussi dans sa jeune enfance, d'un tyran assoiffé de sang et de mort. Et Jésus parle lui-même de sa mort comme un baptême. Alors, ce qui suit montre toute l'ironie de notre Dieu. La sœur de Moïse, sans doute Myriam, a dû penser que tout virait à la catastrophe. L'arche, la caisse de Jean, a été repérée. Et les jours de son petit frère sont en danger. Mais encore une fois, une femme, et pas n'importe quelle femme, la fille du Pharaon, fait fi de ses ordres. Elle est émue de compassion au vu de ce petit bébé hébreu. Elle ne peut pas consentir à l'idée de le tuer. Loin s'en faut, elle veut le garder, le sauver de sous le nez de son père. De plus, la sœur de Moïse réagit avec une intelligence émotionnelle qui dépasse son tendre âge. Verset 7. « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» Bien sûr, elle va chercher sa mère. Et le comble, c'est que cette princesse va payer sa mère un salaire pour élever son propre garçon. Qui l'aurait cru? Ce bras de fer entre le Dieu des Hébreux et le Pharaon semble bien gagner d'avance. Mais Dieu, dans sa souveraineté, n'écrasera pas le Pharaon tout de suite. C'est comme si Dieu joue un peu avec le pharaon. Il veut l'humilier. Dieu va le faire de manière étonnante. Pour utiliser le langage de l'apôtre Paul, qui parle aux chrétiens, il utilise les faibles pour écraser les forts. Il choisit les fous pour faire honte aux sages. C'est vrai que nous pouvons avoir l'air bien faible parfois, mais Dieu n'est jamais mis à mal par notre faiblesse, par notre manque de moyens. Il est le Dieu qui se plaît à renverser les situations. Et comme nous l'avons vu dans le livre de Ruth au mois de janvier, selon la providence divine, Dieu ordonne toutes choses pour que ses desseins s'accomplissent. Dieu suscite cette princesse pour sauver le bébé. Il se sert du courage de sa mère, de l'intelligence de sa sœur pour parvenir à ses fins. Qui sera ce garçon? Qu'est-ce qu'il va devenir? Quel est le destin de l'enfant qui nous est donné? Sera-t-il une Jeanne d'Arc, un Charles de Gaulle pour le peuple de Dieu? Alors, récit, sexe à l'air, et à peu près 37 années s'écoulent. Nous sommes à notre deuxième section, donc qui commence au verset 11. Le petit bébé Moïse, sauvé de l'eau, a grandi, et il cherche son destin. Alors, il y a un film que j'aime bien, c'est « Les carnets de voyage ». C'est l'histoire d'un périple en moto de Che Guevara avec un ami. Donc avant que Che Guevara s'engage avec les communistes à Cuba. À l'époque, il était médecin, ou plutôt étudiant en médecine à Buenos Aires. Et son ami avec qui il est parti en voyage était déjà un médecin. Ils sont partis ensemble à moto pour découvrir l'Amérique latine. Aventure qui fait rêver. Mais c'était également un voyage pendant lequel ils ont vu la misère, la maladie, les dictatures. Le jeune étudiant en médecine est révolté par ce qu'il voit et décide de s'engager dans la politique pour guérir la société tout entière au lieu de dédier sa vie à guérir quelques malades à l'hôpital. Alors on connaît bien la suite de l'histoire, la révolution cubaine, les guerres et une nouvelle dictature. Alors pour revenir au récit de l'Exode, Moïse, je vous le suggère, ressemble fort bien à un révolutionnaire en devenir. Jetez un coup d'œil sur le verset 11. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères. Il vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qui cacha dans le sable. Alors Moïse vit une sorte de crise identitaire. Il a tous les privilèges d'un prince, mais comme le texte le martèle à deux reprises, ce sont les Israélites qui sont ses frères de sang. Il commence à prendre conscience de la misère de son peuple. Il commence à ressentir profondément l'injustice qu'il subit. Il rejette son statut de prince, les honneurs, la richesse de la cour égyptienne. Il commence à s'identifier avec son peuple, à prendre sur lui son joug. Mais en même temps, il est impétueux. Sa colère, son agression déborde. Il venge un Israélite en tuant un contre-maître égyptien. Moïse a dû être assez costaud, assez fort. Il semble avoir l'étoffe d'un héros, d'un révolutionnaire. Mais le lendemain, le mythe s'écroule. Encore une fois, Moïse décide d'intervenir, cette fois-ci entre deux Hébreux qui se disputent. Il ne peut pas s'empêcher. Il est animé par un sens, le sens de la justice. Mais leur réaction est on ne peut plus cassante et acerbe. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles? Comme tu as tué l'Égyptien? Alors, ironiquement, c'est bien ça ce que Moïse va devenir, chef et juge du peuple. Et même plus tard, son leadership va être contesté à maintes reprises et plus tard, il tiendra bon. Mais ce jour-là, lorsqu'il entend ces paroles, il flippe, Moïse flippe. C'est vrai, personne ne l'a fait, chef et juge. Il prend peur, il s'évade. Face aux menaces du pharaon, il capitule, il prend la fuite. Notre libérateur, notre Jeanne d'Arc, notre Charles de Gaulle en devenir est loin du compte. On le retrouve dans le désert, chez un peuple qui habite à Midian, un peuple sémite. On le retrouve devant un puits. Et on voit bien qu'en dépit de son humiliation, Moïse n'a pas changé d'un iota. Il est toujours aussi impétueux, aussi ému par l'injustice. Lorsqu'il voit quelques filles importunées par des bergers, il prend leur défense. Il ne peut pas s'empêcher. Tout en lui brûle contre l'injustice. L'humiliation du faible par le fort. Mais le fait est que Moïse est bien faible. Il ne peut pas sauver son peuple. Certes, il peut sauver de manière très galante quelques femmes de quelques mauvais bergers. Mais il s'est révélé un piètre libérateur. Un révolutionnaire bien médiocre. Il veut faire le bien. Mais il n'en a pas les moyens. Il peut tuer un Égyptien. Mais le sort de tout son peuple le dépasse complètement. Moïse ne peut pas affronter le pharaon et gagner. Il est démuni. En exil, loin de son peuple. Alors, la fois dernière, nous avons dit que l'histoire de l'Exode fait partie des structures profondes du récit biblique tout entier, que c'est une analogie historique qui nous montre l'Évangile et l'ampleur, la grandeur de l'acte salvateur de Jésus à la croix. Nous avons dit que l'ennemi que Jésus affronte est vain à la croix, n'est pas un roi politique, mais le mal, le malin et la mort. La Bible nous montre que tout homme, toute femme, sans le Christ, est prisonnier du mal, du malin et ultimement de la mort. Alors cet emprisonnement se manifeste de multiples manières. Parfois, c'est notre désir de vivre à notre manière, sans l'ingérence de Dieu. On ne veut pas de son règne, on ne veut pas de son mot à dire dans notre vie. Bref, c'est une révolte. Parfois, ça se manifeste de manière très visible, le meurtre, le mensonge, l'adultère. Parfois, de manière plus cachée, de façon plus privée, par la jalousie, la haine, l'égoïsme. Mais le mal, notre révolte, gangrène nos cœurs et nos vies tout entières. Pas de manière absolue, mais rien n'échappe à ses griffes. Et la Bible nous dit que le salaire de cette révolte, c'est la mort dans l'éternité. Alors, le philosophe et l'ex-ministre de l'Éducation, Luc Ferry, dit dans son livre « Apprendre à vivre », « Si les religions se définissent elles-mêmes comme des doctrines du salut par un autre, grâce à Dieu, on pourrait définir les grandes philosophies comme des doctrines du salut par soi-même, sans l'aide de Dieu. » Alors, je ne suis pas sûr que toutes les religions se définissent ainsi. Mais ce qui est frappant dans la citation est l'optimisme de Ferry. Selon Ferry, qui prône la philosophie de l'humanisme, l'homme peut s'en sortir sans l'aide de Dieu. Il peut se sauver, il peut se racheter. Mais ce que le récit de Moïse nous montre, c'est qu'un simple homme, un homme n'est pas capable de nous sauver de l'esclavage, et surtout de l'esclavage du péché, notre addiction au mal, qui nous réduit à la servitude. Comme Che Guevara, on veut bien croire aux révolutions politiques, comme peut-être Luc Ferry, ou du moins Jules Ferry, on veut bien croire à l'éducation. Comme Adam Smith, on veut bien croire à la prospérité bienfaisante, salvatrice pour tous. Mais si nous mettons notre confiance en ces choses, nous finirons aussi démunis que Moïse dans le désert. Ces choses ne changeront pas nos cœurs. Ces choses ne vont pas libérer nos cœurs. Mais il n'y a pas que la philosophie qui croit en le salut de l'homme par l'homme. En dépit des propos de Luc Ferry, la religion y croit fermement aussi. Les religions proposent une voie de salut, un comportement à suivre, un niveau à atteindre, des efforts humains, des rites pour être enfin acceptable aux yeux de Dieu, enfin libre devant lui. Mais ce n'était pas la vie de Jésus. Jésus passait son ministère à démonter l'esprit religieux. Une fois, Jésus parlait avec un homme riche et religieux, et cet homme lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui a parlé de la loi, et cet homme lui a dit, qu'il avait gardé dès sa jeunesse. Jésus le regarda et l'aima. Ça doit être un des versets les plus beaux de la Bible. Et Jésus lui a dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Jésus lui a demandé de se séparer de la chose qui tenait son cœur en captivité, la chose à laquelle il faisait plus confiance qu'à Dieu lui-même, le trésor de son cœur. Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste. C'était à ce moment-là que Jésus a parlé de combien il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ses disciples lui ont dit, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus a dit, « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible avec Dieu. » On peut frapper de temps en temps, comme Moïse a frappé l'Égyptien. Ça peut nous donner l'impression d'être bon, même meilleur que d'autres. On peut avoir l'impression de remporter une victoire ou deux, comme cet homme riche avec la loi. Ça peut nous donner une certaine assurance. On se sent justifié. On en est fier même. Mais si nous sommes lucides, si nous considérons l'ampleur du problème, la taille du pharaon, la gangrène de notre péché, il faut conclure en toute humilité que la guerre contre notre péché est de nous-mêmes pas gagnable. Si nous sommes lucides, nous nous rendons compte, comme Moïse dans le désert, que nous sommes de piètres libérateurs. Notre religiosité, avec ses œuvres, ses rites, est bien piètre, voire risible. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous affranchir du mal, du malin et de la mort. Fort heureusement, les derniers versets de notre passage nous montrent que Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe. Il n'est pas insensible à notre sort. Il y a un libérateur qui fait le poids. Versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, y compris leur situation. Dieu n'avait pas oublié les Israélites. Il s'est souvenu de son alliance dans le sens où le bon moment était enfin arrivé. Le moment que Dieu attendait et guettait. C'était le moment qu'il allait agir, qu'il allait intervenir. De lui-même, Moïse ne peut pas sauver son peuple. Mais Dieu en est bien capable, et avec lui, tout est possible. La semaine prochaine, nous allons voir comment Moïse rencontre le Dieu vivant et vrai, comment Dieu lui donne une mission, la mission de libérer son peuple, ou plutôt la mission de dire au Pharaon comment Dieu va libérer son peuple. Dans ce passage, nous avons vu l'ombre de l'homme que Moïse va devenir avec la puissance de Dieu. Mais d'une autre manière, Moïse, pendant toute sa vie, ne sera que l'ombre de Jésus lui-même. Alors à la fin de la vie de Moïse, Moïse va dire à son peuple que Dieu va susciter pour eux, d'entre eux, un prophète comme lui, avec les paroles de Dieu dans sa bouche. Le Nouveau Testament nous montre que ce prophète est bien sûr Jésus-Christ lui-même. Un homme comme Moïse, mais beaucoup plus grand que Moïse. Un homme pleinement homme, certes, mais comme ce récit nous montre, un simple homme n'aurait jamais fait l'affaire. Il aurait eu besoin d'être libéré lui-même. Son cœur aurait été aussi gangréné par le mal que le nôtre. Jésus est un homme, pleinement homme, capable de compatir avec nous à tous égards, mais il est également pleinement Dieu, capable, assez puissant, fort, pour être le libérateur dont nous avons besoin. Peut-être ça fait plusieurs semaines que vous venez à l'église, peut-être pour écouter les messages, peut-être vous êtes là pour la première fois même, et vous posez des questions par rapport à la foi chrétienne. Comment dois-je vivre? Que dit la Bible? Comment puis-je faire pour être acceptable aux yeux de Dieu, pour être son ami, pour être en bon terme avec lui, pour rester en bon terme avec lui? Jésus a dit que tout ça, c'est impossible aux hommes, mais que tout est possible pour Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas une question de se fier aux hommes, ou à se fier aux rites ecclésiastiques, le baptême, la scène, ni de pratiquer les bonnes œuvres pour y arriver ou pour se montrer à la hauteur du salut. Si nous nous fions à ces choses-là, nous allons nous retrouver dans le désert, démunis, comme Moïse. Notre libération commence et continue au pied de la croix de Jésus-Christ, là où le pardon se trouve, là où le pardon est reçu en toute humilité, comme un don gratuit, comme un cadeau immérité. C'est là que Jésus vint notre ennemi, celui qui tient notre cœur. C'est là qu'il prend sur lui le châtiment que notre désobéissance mérite, la mort, la séparation d'avec Dieu. Il subit notre mort pour que nous puissions être libérés de la condamnation, de la mort éternelle. La vie chrétienne commence quand nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas gagner l'approbation de Dieu nous-mêmes, que notre rébellion à l'égard de Dieu nous dépasse complètement, qu'elle est trop ancrée en nous, trop persistante, et qu'en nous saisissant, pour la première fois ou même pour la énième fois, le Sauveur, le Libérateur, qui nous libère en gagnant, en méritant, en payant à la croix, pour rendre notre pardon possible. Cette vie chrétienne commence dans la prière. Les Israélites ont prié et Dieu les a entendus. Et Dieu entendra nos prières aussi. Je vous invite à la prière. Et si vous avez envie de confier votre vie à Jésus pour la première fois, je vous invite à reprendre mes paroles, de les faire les vôtres devant Dieu, dans le silence de votre cœur. Prions. Bon Père Céleste, je veux me placer devant toi ce matin en toute humilité. Je me rends compte que je suis loin de toi, que mes efforts de te plaire sont vains, qui révèlent mon désir de m'en sortir tout seul sans toi, de faire confiance à moi-même. Père, je veux me détourner de moi-même, de mon égoïsme, de mon arrogance, de mon péché, et me tourner vers toi ce matin. Aide-moi à te faire confiance, à te confier ma vie. Je te demande pardon et je saisis le pardon que tu m'offres en Jésus-Christ. Cette grâce imméritée, ce pardon gratuit qui découle de la croix, de son sacrifice. Père, je te remercie pour le salut. Je te demande de m'aider à vivre pour toi, non pas pour gagner ce que tu m'as donné, mais par reconnaissance pour ce cadeau reçu. Aide-moi à marcher dans tes voies, à mettre ma confiance en toi, à trouver ma joie en ton Fils. Père, je te demande ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.